dit très souvent de la Bulgarie qu'elle est le pays le plus pauvre de l'Union européenne, et si on regarde les indicateurs statistiques, cela est vrai en effet, et dans le même temps, c'est une formulation relativement inexacte. Ce que l'on pourrait dire plus justement, c'est que c'est un pays dans lequel les salaires sont très bas, une partie des prix le sont également, donc en correspondance avec le niveau des salaires, mais ce qui est beaucoup plus sensible, c'est l'existence de très fortes disparités socio-économiques entre une petite minorité qui s'est accomplie professionnellement et économiquement, qui a une consommation ostentatoire, qui envisage de grandes vacances lointaines, et une majorité de la société qui a vécu les dernières années, donc depuis 3 ans en particulier, comme étant un effondrement social de plus en plus intense. Donc c'est plutôt ce fossé-là qui est significatif, et la situation est ressentie comme extrêmement violente sur un plan presque d'économie morale. C'est-à-dire que fondamentalement, c'est un sentiment d'injustice qui est au fondement de la mobilisation sociale qu'on a observée au mois de février. Les manifestations se sont progressivement épuisées. Il faut rappeler qu'elles ont été les plus importantes numériquement depuis celle de 1997, au moment où il s'interrogeait encore sur la possibilité d'une réelle transition vers un ordre politique pluraliste post-communiste. Elles ont donc été très intenses, elles ont couvert une très grande variété de villes en Bulgarie, et elles ont duré pendant plusieurs semaines, ce qui était sans précédent. C'est-à-dire que vous aviez réellement une aspiration de la part de groupes sociaux très variés, de générations distinctes, d'orientations politiques différentes, à s'exprimer dans l'espace public en ayant recours à la rue.
Au sujet de la Bulgarie, on s'inquiète de la corruption de sa classe politique, on s'inquiète aussi de l'indépendance ou pas de sa justice et de ses médias. Alors très concrètement, où en est-on de la situation au niveau de la démocratie? Est-ce qu'elle se porte bien en Bulgarie?
La démocratie se porte aussi bien en Bulgarie qu'en France. En revanche, ce qui est exact, c'est qu'on est en présence d'une situation dans laquelle existent de manière assez significative deux formes de corruption. Une forme de corruption est assez banale, la France la fréquente aussi, il s'agit de collusion entre des milieux économiques et des milieux politiques. Si vous voulez, c'est une grande corruption de milieux d'affaires contemporains. Le deuxième type de corruption, c'est une petite corruption, alors qui a été très importante, par exemple, dans les relations avec la police il y a quelques années, mais qui est en train de progressivement être réduite. Elle reste sensible dans des relations avec le corps médical, dans tout un ensemble d'interactions quotidiennes avec des représentants de la fonction publique. Ces deux registres de corruption sont à l'origine de très vifs ressentiments. Très vif ressentiment lorsque vous êtes un citoyen ordinaire à faible revenu qui doit négocier l'octroi de services publics à travers des échanges de faveurs éventuellement monétarisés, mais aussi cela contribue à ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir ce sentiment d'une injustice par rapport à une classe politique qui serait toute puissante parce que économiquement en mesure de contrôler l'essentiel des relations clientélaires dont dépendent les entreprises et par effet donc ensuite plus bas dans la hiérarchie sociale les citoyens ordinaires.
Le 12 mai auront lieu de nouvelles élections sous très haute surveillance et dont l'issue est assez incertaine.
Oui, en effet, l'issue est incertaine pour au moins deux ces raisons. La première porte sur le taux de participation. Il y a des effets de redistribution des nombres de mandats très sensibles en fonction de l'intention de vote des électeurs. Et l'on ne sait pas réellement si on aura un taux de participation historiquement bas ou si l'on aura, comme le suggèrent les derniers sondages, une mobilisation un petit peu plus sensible que celle attendue. Et puis l'autre élément d'interrogation concerne les relations qui seront entre le parti sortant, donc GERB, de l'ancien Premier ministre, ministre Boyko Borisov et les socialistes, et la capacité, en fonction de leurs résultats, à tenter de mettre en place une coalition qui permettrait de fonder un gouvernement tenable. L'enjeu ici est de se demander d'une part qui prendra part à cette coalition, quel trait aura-t-elle, mais d'autre part, est-ce que l'élargissement du spectre politique sous la forme de la coalition permettra de développer un programme qui serait vécu comme un programme national, sachant que précédemment, la Bulgarie a eu plusieurs expériences de coalition qui ont été interprétées par les électeurs comme étant non pas une ouverture pour aller vers un consensus partagé, mais plus l'obligation de répartir l'argent disponible entre différents intérêts clientélaires de l'ensemble des partis qui étaient partie intégrante des coalitions.
Qui sont les partis en présence pour cette élection?
Alors les principales formations politiques en présence sont le parti sortant, GERB, donc de l'ancien Premier ministre Boyko Borisov, qui se qualifie de parti de centre-droit, qui de fait a développé un discours qui était souvent très populiste et qui a repris à son compte une partie des slogans de la droite nationale bulgare sur le plan de la représentation du monde et de la représentation des minorités. Et puis il y a face à lui un parti socialiste bulgare qui était l'ancien parti communiste qui a été reconverti donc après 1989 et qui a déjà eu plusieurs expériences gouvernementales, notamment dans un cadre de coalition. Et puis il y a également alors la percée d'une formation dont on ne sait à quel point elle sera prégnante, mais qui a été lancée par Meglena Kuneva, qui s'était fait remarquer par son rôle au sein des instances européennes et qui se voulait une sorte de balanceur qui aspire à devenir un balanceur du système politique bulgare qui ne sait pas quel sera exactement son poids électoral. En dehors de ces trois protagonistes, vous avez également deux autres acteurs dont l'entrée au Parlement est considérée comme probable. Le mouvement des droits et libertés, qui représente la minorité turque et les minorités musulmanes de Bulgarie, et la formation xénophobe extrémiste Ataka, dont on ne sait pas exactement quelles seront les performances et si elles seront renforcées par la crise économique et sociale. Il reste dans l'indétermination la possibilité qu'entre au Parlement une partie de fragments de l'ancienne droite classique anticommuniste derrière Ivan Kostov, voire éventuellement de petites formations plus innovantes comme les Verts qui ont tenté de percer ces dernières années.
Est-ce que ces élections pourront résorber le malaise économique et social? Et sinon, quelles sont les perspectives pour la Bulgarie en ce domaine?
Alors c'est en effet l'un des très grands enjeux et l'une des questions qui sont des questions ne concernant pas simplement la Bulgarie mais l'ensemble de l'Europe. Est-ce que des élections peuvent résoudre un malaise que j'appellerais non pas économique et social mais profondément politique? Un malaise qui concerne la légitimité de plus en plus fragile d'une situation de représentation dans laquelle les élus doivent parler théoriquement au nom de leurs électeurs, mais finissent par leur ressembler si peu qu'on se demande s'ils ne sont pas en train de défendre les intérêts qui leur seraient singuliers, spécifiques, et non pas ceux des électeurs de façon générale. Le recours à la rue est un recours signifiant une société civile existe, c'est dans ces termes-là que se sont désignés les manifestants. Cette société aspire à être entendue, elle souhaite pouvoir être vue comme étant adulte, comme étant capable d'avoir une expertise technocratique, comme ayant aussi des droits en tant que consommateur de tout un ensemble de biens publics et privés. Et cette aspiration-là doit être entendue d'une manière ou d'une autre par les acteurs politiques. Le sentiment est que cela ne l'a pas été et que l'horizon électoral ne permettra sans doute pas la possibilité de transformer la nature de l'actuelle relation politique.